Alors
on va pouvoir commencer? Allons-y!
L'attentat du Petit Clamart en 1962.
Depuis que le peuple français m'a appelé à reprendre officiellement place à sa tête, je me sentais obligé de lui poser un jour une question qui se rapporte à ma succession, celle du mode d'élection du chef de l'État, des raisons que chacun connaît, m'ont récemment donné à penser qu'il pouvait être temps de le faire.
Des raisons que chacun connaît. Sans l'attentat du 22 août 62 et son onde de choc, l'élection au suffrage universel du président de la République n'aurait peut-être pas vu le jour. Les semaines précédentes, les débuts de l'indépendance algérienne avaient été chaotiques. Les nouveaux dirigeants du pays n'en étaient pas maîtres. Les Européens se sentaient menacés de toutes parts, les harkis pourchassés, égorgés. Mais en France, l'opinion française avait envie de tourner la page. En même temps que l'OAS brûlait ses dernières cartouches à Alger, à Paris, les partisans vaincus de l'Algérie française tentèrent néanmoins, encore une fois, d'assassiner le général. L'opération fut baptisée Charlotte Corday, ce qui indiquait de quel côté auraient penché les conjurés pendant la Révolution. Et aussi la tranquille assurance qui les habitait, il était légitime de tuer le chef de l'État de fait, comme il disait, comme il avait été légitime de poignarder Marat, la soifée de sang. L'affaire faillit réussir. Pour moi, dit le général, c'eût été une sortie très convenable. Mais puisque les circonstances lui avaient permis de continuer encore un moment à la table du jeu, il a bâti une carte qu'il tenait en réserve, un référendum. Et quel référendum? Celui qui a légitimé le régime de monarchie élective dans lequel nous sommes encore.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Noël Jeannet, bonjour.
Bonjour.
Un livre très original, on va pas faire des compliments tout au long de l'émission.
Si, laissez-vous aller.
Au seuil, sur l'attentat du Petit Clamart, on verra que l'historien politique que vous êtes devient théologien, je crois que c'est la première fois. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque, vous étiez déjà grand, l'été 62?
J'étais élève à l'école normale de la rue d'Ulm, effectivement. Mon père se trouvait ambassadeur en Algérie, le premier ambassadeur dans l'Algérie indépendante. Je l'avais rejoint pour l'été et c'est là que nous avons appris l'événement dont nous parlons.
Mais on ne savait pas très bien à Paris ce qui se passait à Alger. On ne voulait peut-être pas tellement le savoir à ce moment-là parce que on voulait tourner la page et on n'était pas nécessairement bien disposé vis-à-vis de ceux qui ne voulaient pas fermer le livre.
Mais il y avait une lutte terrible et déjà qui annonçait le sang futur entre les différentes factions parmi le FLN et autres qui s'efforçaient de conquérir le pouvoir en effet en Algérie. Les choses se sont clarifiées dans les semaines qui ont suivi en Algérie, sans relation évidemment avec l'événement dont nous parlons.
Le général de Gaulle, depuis un moment, a renoncé à rejoindre Colombey en voiture et ce mercredi, d'après le Conseil des ministres, le convoi présidentiel se dirige vers l'aéroport de Villacoublay où un avion l'attend pour le mener à la base de Saint-Dizier, en Haute-Marne. Nous sommes peu après 20 heures.
On arrive à l'avenue de la Libération, au top, en haut de cette avenue.
Docteur de Gosse.
Le chauffeur nous a dit qu'il avait vu une personne agiter un journal.
Bastien Thierry a agité le journal.
Alain Latocnet.
Il a agité le journal tout de suite. Bernier l'a peut-être vu mal, parce qu'il faisait déjà nuit. Enfin, nuit, mais c'était en, comment dit-on, entre chien et loup. Le signal a été perçu un peu tardivement. Quand la camionnette a tiré, elle a démarré un petit peu en retard. Et ils n'ont pas tiré en l'air, les types. Attention, ils ont tiré.
Entre le premier et le dernier coup de feu, 7 secondes seulement s'étaient écoulées. En tout, plus de 140 balles avaient été tirées, dont plusieurs avaient atteint la voiture présidentielle. L'une d'entre elles était passée à quelques centimètres de la tête du général. Mais par miracle, ni lui ni personne n'avait été touché.
Alors ma belle-mère me dit, j'espère que les poulets n'ont rien eu. Car dans la voiture du général, il y avait les poulets pour le déjeuner de M. Pompidou du lendemain, que ma belle-mère avait commandé à la dernière minute. Et alors, là, il y a eu une petite rigolade de quelques minutes. Et le général a dit, cette fois, c'était tangent.
Après un extrait du film Le Chacal de Fred Zinnemann, on entendait le colonel de Boissieu, le gendre du général qui se tenait à l'avant et avait recommandé à Madame de Gaulle et à de Gaulle de se baisser parce qu'il restait évidemment impavide alors que les balles sifflaient de partout. Les poulets ne sont pas les forces de l'ordre.
Non, mais c'est ce qui a été compris. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on parle de ce sujet, quantité de gens évoquent les fameux poulets, comme si on avait un besoin rétrospectif d'introduire un élément de cocasse dans le tragique de l'événement.
Il n'y a pas eu de mort parmi les forces de l'ordre, les accompagnateurs.
Il n'y a eu que deux morts liées au petit Clamart. Bastien Thiry, le chef du commando, qui a été condamné à mort et qui n'a pas été gracié par De Gaulle, et d'autre part, un malheureux commandant de gendarmerie, je crois qu'il était à Saint-Dizier, qui, apprenant l'événement, a eu une attaque et est mort. Deux morts seulement, dont un, au moins, très injuste.
La famille Fillon, qui naviguait en panhard de l'autre côté de la route et qui a failli prendre la déesse de plein fouet, n'ont pas été gravement touchés non plus.
Je précise qu'il s'agit de Guy Fillon, chauffeur-livreur, oui. Et qui, le fait qu'ils aient passé là, effectivement, illustre le formidable poids du hasard dans ces événements. Ils rentraient de chez leur tante, et normalement ils ne passaient pas par là, mais le père avait voulu montrer je ne sais quoi à ses enfants, et il y a eu deux séries indépendantes qui se sont rencontrées. Et si ça n'avait pas été une déesse capable de suivre le chemin grâce à son système pneumatique, il est très probable que le chauffeur ait été s'écraser contre Guy Fillon. De Gaulle l'a dit après, nous aurions tous été carbonisés.
Mais dites-moi, la déesse, c'est celle qui a été exposée régulièrement, par exemple dans la maison natale du général de Gaulle à Lille ?
On retrouve encore le cocasse, puisque la voiture en question, je vais vite sur cette affaire compliquée, a été vendue à un général de l'Élysée qui a eu un accident. Citroën a considéré qu'elle ne pouvait pas la réparer, donc Citroën a fait une DS similaire en mettant à l'intérieur l'habillage qui était celui original. Et ça illustre tout à fait une publicité, je sais qu'on peut pas en faire ici, mais c'est fou ce que Citroën peut faire pour vous. Et cette DS qui n'était pas la bonne a été finalement envoyée en Chine, où 300 000 Chinois se sont respectueusement inclinés devant l'automobile qui n'était pas celle de l'attentat du petit Clamart. Je vous ai bien dit, Jean Lebrun, qu'il y avait beaucoup de cocasses dans cette affaire, intimement entrelacées avec le tragique. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup intéressé.
Mais vous datez, monsieur l'ancien président de Radio France, parce que maintenant on peut faire de la publicité de marque à l'antenne.
Ah, moi je ne l'avais pas remarqué.
Les hommes du commando, vous parlez de bandes, les ont tirés depuis une camionnette Renault, hein, je dis la marque. Les autres, depuis une ID19, c'est encore une voiture Citroën, formaient, à vous entendre, une sorte de nébuleuse faite un peu de briques et de brocs, ou par exemple un chouan, bougrenet de la Tocnay, disputait les premiers rôles à un activiste de l'OAS, Belvisi, qu'il considérait d'ailleurs d'assez haut.
Qu'est-ce que c'est que ce mariole ?
Un homme sûr, je réponds.
J'aime pas ses manières, et j'aime pas sa cravate à fleurs.
C'est pas grave, vous n'allez pas passer vos vacances ensemble.
J'aime pas.
Un but de sa personne, orgueilleux, l'air de paraître plutôt que d'être, ça c'est la Tocnay. Hein.
Oh, mon Belvisi, oh, c'est un garçon un peu secondaire. Hein.
Voilà, c'est Georges.
Georges Vatin, dit Georges la boiteuse, est depuis longtemps de tous les salgots de l'Algérie française.
Vous savez pourquoi vous êtes ici ?
Pour tuer De Gaulle.
Pourquoi voulez-vous tuer De Gaulle ?
Je sais pas vraiment comment dire. Hein. Je vais le tuer pour lui apprendre à vivre, quoi.
Voilà, ça c'est Georges, l'humour.
Belvisi et la Tocnay recrutent le reste du commando. Un ancien des Beaux-Arts, un fils de résistant célèbre, des Hongrois du mouvement Jeune Nation, des anciens légionnaires, un jeune aristocrate d'une grande famille de France.
Oui, de Condé.
Alors il me présente à Max.
Max est Alain Bougrenet de la Tocnay.
Alain de la Tocnay. Et puis Max me présente à Didier.
Louis de Condé, interrogé à Vichy, où vient de prendre sa retraite de libraire d'occasion, après avoir été longtemps le leader du Front National sur le département.
Il paraît que c'est un poète aussi.
Par la télévision TV Liberté. C'était un assez bon libraire d'occasion, je vous l'aurais recommandé s'il n'avait pas fermé cet été. Et on a entendu auparavant un extrait de « Ils ont voulu tuer De Gaulle », le téléfilm de Jean-Teddy Philippe. Didier, arrêtons-nous au chef que Louis de Condé considère avec révérence, parce que c'est une personnalité qui peut marquer ce qui l'entoure.
Oui, j'ai essayé d'en faire le portrait. C'est un homme qui a été à la fois très, très admiré par sa bande. Vous avez dit qu'elle était hétéroclite, très admiré pour sa personnalité, la force de son aura, et qui en même temps, quand on l'observe, paraît intimement déchiré par une contradiction permanente.
Il savait le nom réel de Didier, les membres de la conjuration?
Non, il ne savait pas son nom réel. Non, il ne savait pas. Il s'est appelé aussi le roi, il avait pris d'autres noms.
Et il s'appelait Bastien Thiry.
Il s'appelait Bastien Thiry, un colonel qui n'avait pas combattu en Algérie. C'était un colonel du côté de la fabrication des engins, etc. C'était un polytechnicien, très rationnel, jusqu'à l'excès, parfois jusqu'à la caricature, et qui en même temps, à l'intérieur de lui-même, bouillonnait de passion, qu'il s'efforçait visiblement de contrôler. Cette contradiction l'a marqué. Vous rappelez ce que disait Barenton Confiseur, le fameux chef de PME de Teuf avant la guerre. Il disait qu'il y avait, entre le bon sens et la logique, des équilibres très très particuliers. Il disait, bon sens sans logique, un bon employé. Logique et bon sens, un chef. Logique sans bon sens, une catastrophe. Et c'est finalement ce qui s'est passé pour Bastien Thiry. Obsessionnel de la mort de Gaulle, on l'a bien vu au cours de son procès. Un homme qui était marqué par une détermination froide, fondée sur une haine de Gaulle qu'il avait progressivement développée et qui prend une intensité stupéfiante.
Haine qui lui est aussi instillée au confessionnal par les prêtres intégristes qu'il peut fréquenter. C'est un des aspects nouveaux de votre livre sur le petit Clamart, Jean-Noël Jeannet. Vous dites que de Gaulle a été victime cette année-là d'une sorte de, moi je reprends vos termes, fatwa chrétienne, enfin je dirais moi fatwa catholique, parce que c'était des intégristes de l'Église catholique qui agitaient les cercles finissants d'Algérie française, et certes pas le cardinal d'Alger que les premiers appelaient Mohamed Duval.
Duval, Monseigneur Duval, non, ce n'est pas l'Église en effet catholique, elle a d'ailleurs été préoccupée par ce qu'on a pu dire, mais il y avait visiblement une frange intégriste particulièrement ému des décisions qu'était en train de prendre le Concile de Vatican II, au même moment, résistant toutes ses forces. Et on voit partout la trace d'un certain nombre de prêtres qui, en effet, ont encouragé les conjurés à aller de l'avant en fondant leur analyse sur des textes très anciens. Et en particulier, on a vu surgir abondamment, avant, après, au procès, la figure de saint Thomas d'Aquin. Et comme vous le dites, j'ai eu, pour la première fois, j'en fais l'aveu, à me plonger dans l'œuvre de saint Thomas d'Aquin.
Alors attendez, saint Thomas d'Aquin, il parle du tyrannicide. Qu'est-ce qui légitime l'insurrection légitime, qui n'est pas nécessairement l'assassinat, quand il y a un despote qui ne sert plus le bien commun?
Tout le Moyen-Âge a été parcouru de débats à ce propos. Et saint Thomas d'Aquin, quand on le lit de près, définit la légitimité du tyrannicide d'une manière qui ne rejoignait pas l'acte du 22 août, car il refusait un individu seul, de pouvoir se déterminer sans avoir derrière lui le soutien de toute une élite qui avait pu définir le caractère insupportable de la domination de ce tyran. Il ajoutait que le danger de tuer un tyran, c'est qu'on risquait beaucoup d'avoir pire après lui. Et qu'en tout cas, il y avait un orgueil insupportable à s'affirmer tout seul, élu de Dieu, pour aller porter le fer, comme l'avait fait Lorenzo Accio, par exemple.
On pense aussi à Ravaillac, circonvenu par les jésuites. Mais les membres du commando, là je ne parle plus de Bastien Thiry dans son face-à-face avec Thomas d'Aquin, ils pouvaient faire la comparaison avec Ravaillac, dire que c'était un parjure de Gaulle, qu'il avait abjuré sa foi précédente, qu'il orientait le pays vers une décadence morale et spirituelle. C'était les mots qu'ils utilisaient.
Oui, mais cela dépend de l'origine de chacun des conjurés. Il y a trois groupes, vous le disiez. Il y a ceux qui le haïssent parce qu'ils sont de l'OAS et qu'il a bradé l'Algérie. Il y a trois Hongrois qui paraissent vraiment sincèrement penser que de Gaulle n'a comme but que de livrer la France au communisme. Et on est peu de temps après la révolte de Budapest, comme vous savez. Et puis il y a des jeunes gens qui préparent Saint-Cyr et qui se montent mutuellement la tête au nom d'une certaine idée de la France éternelle.
Mais enfin, comment justifier qu'il y a tyrannie quand le général de Gaulle est entouré par une forte majorité de l'opinion? Voici une chanson qui date pas tout à fait de 62, elle est un peu plus tardive, de Delanoë, 65.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie 100 sous, ouais. le nom, drôle de nom, écrit sur l'ouragan. Quatre murs de l'horizon, claquant comme un slogan. Ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. Ce nom qui chante clair, je te parie sans sou que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras beaucoup.
Il n'y a plus de tabac dans la tabatière.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-Noël Jeannet qui publie une histoire de l'attentat du Petit Clamart aux éditions du Seuil. Les conjurés ont échoué, à la satisfaction, il faut le dire, de la grande majorité des Français qui pensaient un peu comme Delanoé dans ces années-là. Ils réussissent leur fuite jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés, parce que la police fait bien son travail. Ils sont presque tous arrêtés. Bastien Thiry en septembre et début 1963 commence le procès au fort de Vincennes devant une juridiction d'exception dont ils disent qu'elle est à la botte du général. Ils n'ont peut-être pas complètement tort.
Il est vrai que le général de Gaulle a souhaité constituer deux tribunaux successifs. Le tribunal militaire qui a jugé le Carteron, Jouot et Salan, et puis une cour de justice militaire qui est celle dont il s'agit et qui a ceci de particulier qu'elle n'implique pas, elle ne comporte pas d'appel en cassation. Donc le jugement est aussitôt définitif. C'est évidemment une justice d'exception. Ce qui, vu d'aujourd'hui, est intéressant à considérer. Je cite un débat à ce propos entre François Mauriac qui l'approuve et Emmanuel Berle qui s'en indigne. C'est toute la question en démocratie qui consiste à se demander jusqu'où on peut accepter un certain nombre de concessions par rapport aux libertés publiques et aux règles qui protègent la démocratie elle-même. Jusqu'à quel point on peut l'accepter dans des circonstances exceptionnelles.
On a entendu récemment un ancien président de la République qui est devenu un fervent partisan du référendum par ailleurs, réclamer dans les circonstances qui sont celles que traverse la France, de nouveau des juridictions d'exception.
Oui, la question qui se pose, c'est de savoir jusqu'où on peut accepter d'aller sans que la démocratie tue les motifs même qu'elle peut avoir de défendre son exceptionnalité, de se défendre elle-même, si elle accepte de naufrager un certain nombre de principes fondamentaux qui la constituent. Jusqu'où, c'est un débat, où doit-on mettre, j'allais dire, le fléau de la balance.
Vous citez un nom qui mérite d'être extrait de l'obscurité. Le général de Larmina avait présidé la première juridiction, le haut tribunal militaire. Il voyait qu'il allait devoir juger les généraux putschistes.
Il s'est donné la mort.
Il s'est donné la mort. La cour qui siège à Vincennes est présidée par le général Gardet. Il n'y a que des militaires dans à la tribune, enfin devant laquelle comparaissent les conjurés.
Ou des civils qui ont été faits provisoirement militaires.
Ils ont été activés. Une batterie d'avocats est là. Des avocats qu'on attend dans ce genre de circonstances. Les grands partisans de l'Algérie française. Tixier-Vignancourt, par exemple. Isorni.
Oui, Tixier-Vignancourt qui va se présenter en 65 à la première élection au suffrage universel du président de la République au nom de l'extrême droite contre le général de Gaulle. Oui, j'ai eu le premier accès à toutes les archives du procès, comme à celle du général de Gaulle, comme à celle de la préfecture de police. Il ressort effectivement une tension, une violence dans ce procès qui n'est pas surprenante. Avec, du côté des conjurés, en particulier de Bastien Thiry, la volonté de s'en servir comme un lieu qui leur permettrait de faire l'explication de leurs gestes. Ils n'acceptent à aucun moment de plaider des circonstances atténuantes.
Par exemple, Bastien Thiry aurait fait un séjour en hôpital psychiatrique.
On le cache.
Il ne veut pas qu'on le dise.
Il ne veut pas qu'on le dise parce que ça pourrait affaiblir la densité, l'intensité de sa logique et en quelque sorte frapper de doute les motivations qui peuvent être les siennes. Et la violence de ses propos est très remarquable, étonnante en particulier quand il se compare à Stauffenberg.
Qu'est-ce que vous attendez là comme chroniqueur judiciaire? On va entendre un son de la radio nationale.
Il y a eu évidemment, à côté des grands journalistes de la presse écrite, il y a eu Potcher qui a commencé dans ces années-là d'affirmer son influence.
Ou bien Bastien Thiry est devenu fou,
ou bien des événements extérieurs l'ont subjugué. Et vous savez bien qu'il n'est pas fou, ni asocial, ni inadapté. Son seul système de défense, c'est la légitimité de la résistance à l'oppression. Maître Dupuis, le sentiment de l'injustice qui entre Bastien Thiry remonte à 1940, lorsque les nazis imposaient aux populations qu'ils subjuguaient ces images épouvantables que furent la chasse aux juifs ou la chasse aux communistes. Rappelons que Bastien Thiry, en 40, 41, 42, avait, si nous calculons bien, 13, 14 et 15 ans. Mais plus tard, Bastien Thiry n'a pas admis les principes du référendum d'avril 62 et des accords déviants. Il paraît que ce qui a mis Bastien Thiry au comble de l'exaspération, c'est l'usage que l'on a fait des parapoliciers. Pour Bastien Thiry, dit Maître Dupuis, c'est là la preuve que la France est devenue un état de police. Et voilà, Maître Dupuis continue en pensant que Bastien Thiry est persuadé qu'il sert bien la France. L'avocat dit enfin pour terminer, pour que cela cesse, il faut qu'il y ait un pardon. Si vous condamnez, vous ferez 3 cadavres de plus dans la guerre d'Algérie, vous ferez 7 orphelins et 3 veuves. En 40, messieurs, en 40, vous avez su faire votre choix.
Alors, il me semble que c'est une mise en accusation des magistrats et des militaires pour leur rôle en 1940. Il y a toujours la référence à 1940.
Non, non, les militaires ont été des très vaillants combattants de la France libre. Deux ont perdu un bras. D'ailleurs, ils sont à peu près tous compagnons de la Libération.
Et le général Binoche, par exemple, qui fait partie de la Cour de Sûreté. Dites-moi, Jean-Noël Jeannet, cette référence à 1940, elle est quand même étrange de la part de Bastien Thiry, qui est le gendre de M. Lamiran.
Georges Lamiran.
Ministre de Vichy, un des plus talentueux et éloquents ministres de Vichy.
Et qui a été président de l'association des amis du maréchal Pétain, de fait.
Et avec qui Bastien Thiry aime parler scoutisme.
Il y a deux lignes parmi les conjurés. Il y a ceux qui restent très tout à fait vichistes, qui affirment qu'il fallait haïr de Gaulle dès 1940. Par exemple, Bougrenet de la Tocnay. Et puis ceux qui pensent, et c'est plutôt le côté Bastien Thiry, qui pensent que la résistance a été une belle chose, mais que de Gaulle lui-même a trahi toutes les valeurs qu'il avait incarnées depuis le 18 juin jusqu'à 1945.
Mais vous citiez le nom de Stauffenberg, le chef de la conjuration contre Hitler en 1944 de Laas, comparé à Stauffenberg.
Le 20 juillet 1944, on se rappelle en effet qu'il avait essayé de tuer Hitler et qu'une suite de hasards extraordinaires l'avait empêché de réussir. Sans cesse, Bastien Thiry, qui ne parle que du chef de l'État de fait à propos de Gaulle, explique qu'il est le Stauffenberg nouveau et que c'est le même... Les mêmes motifs l'ont inspiré, la défense et l'illustration d'une loyauté, le refus d'une dérive, etc. Mais il ajoute tout de même que Hitler et De Gaulle, certes, c'est la même chose, mais qu'au moins Hitler, c'est pourquoi De Gaulle est pire encore, au moins Hitler respectait l'armée allemande.
Condamnation à mort pour 3 des conjurés, La Tocnay, Prévost, on ne l'a pas encore cité, et Bastien Thiry. Vous consacrez un chapitre à la question de la grâce. C'est une des responsabilités les plus lourdes qu'est apportée à un chef d'État, même s'il n'est pas, comme le général de Gaulle, abolitionniste en matière de peine de mort.
En effet, et on entre là dans un domaine qu'il est difficile de scruter, même pour l'historien. C'est presque le domaine de l'ineffable. Néanmoins, d'après des confidences de ses proches, on peut en effet dégager un certain nombre de motifs probable du choix qu'il a fait. Observez qu'il avait toujours gracié toutes les femmes, par exemple. Ce qu'il a, semble-t-il, reproché à Bastien Thiry, c'est d'abord de ne pas avoir tiré lui-même, n'avoir pas pris de risque, d'avoir tiré sur sa femme, une femme toute de bonté, disait-il, d'avoir également, d'avoir peut-être été proche d'un banquier, Henri Lafont, assassiné peu de temps avant sa décision, qui était un ami du général de Gaulle et surtout de son frère Pierre, et qui a été assassiné, semble-t-il, par quelqu'un qui a crié « Tiens, voilà pour Bastien Thiry, il était polytechnicien, il avait refusé de le défendre ». Alors, il y a un faisceau d'explications possibles, bien sûr. Certains ont dit qu'il aurait voulu faire un martyr pour les autres, on n'en sait rien, et c'est un propos qui paraît bien controuvé, en tout cas qui n'est pas démontré.
Le souvenir. En 1962, cette année-là, dans la classe de 4e du lycée Pasteur de Neuilly, un élève refuse de se lever pour saluer les 6 enseignants victimes de l'OAS. Cet adolescent, vous savez comment il s'appelle, Patrick Buisson. Le souvenir aujourd'hui, Il est très clivant. Au Front National, il y en a qui fleurissent la tombe du général de Gaulle à Colombey et d'autres qui veulent ériger partout des stèles
oui,
aux dirigeants de l'OAS.
Je ne sais pas si M. Louis Alliot et M. Philippot en parlent entre eux. Effectivement, l'un va sur la tombe à Colombey et l'autre continue d'assister à toutes les messes du petit groupe qui se dit fidèle de Bastien Thierry. Il y a eu aussi une dame qui était maire d'Aix qui, à un moment donné, a songé, je reproduis une interview qui est vraiment fabuleuse, qui a songé à donner le nom de Bastien Thierry à un boulevard de cette cité.
Mais elle est toujours maire d'Aix-en-Provence. La Tocnay, vous racontez le sort des uns et des autres. La Tocnay qu'on va entendre pour finir, lui, s'est retiré à Cavaillon, où il est mort et son fils a pris la relève. C'est le leader de l'opposition au Front National à la mairie de Cavaillon. Le voici qui raconte ce qui lui est advenu en 1970, donc après la retraite du général de Gaulle.
Un jour, je me trouve venu, je crois que c'était venu Bosquet, et je vois de Gaulle en DS, avec son chauffeur, il était parti de la scène publique. Oh, j'ai eu le nom d'un chien. Et alors, je vois évidemment le reflet, je me dis, sous quel angle de tir est-il? Et alors, évidemment, j'avais autre chose à faire ce jour-là. Et je lui enlève mon chapeau, je le salue et lui me salue. Il ne me reconnaît pas, bien entendu. Et je suis parti, en riant. Et je me suis dit, quand même, j'ai cherché à l'avoir 17 fois. Il est là aujourd'hui, tranquille. Je lui donne un coup de chapeau, je le tue. Et oui, si, je l'aurais bien tué par humour, parce que ça m'amusait. Mais j'avais pas du tout l'envie de le faire. Mais j'aurais eu un pistolet, j'aurais peut-être tué pour voir ce que ça faisait comme impression, vous voyez.
La Tocnay, dans une émission de Patrice Gélinas, il lui a fait grâce, vous voyez, la Tocnay. À moins que ce ne soit une question de hasard. Revenons au hasard.
Ah oui, le hasard est présent constamment dans ce livre. Il m'a beaucoup intéressé. Pour un historien, la rencontre entre les forces profondes, ce qui meut une société en profondeur, et le hasard, c'est passionnant. Et le hasard est omniprésent. Par exemple, supposez qu'on ait fait l'heure d'été, comme Giscard l'a fait, quelques années plus tard. Dès ce moment-là, on ne serait pas trouvé entre chien et loup à 20h08, au moment où celui qui était dans l'estafette était incapable de voir le mouvement que Bastien Thierry avait fait avec son journal. Et si ce n'avait pas été le gendre qui avait été à la place du mort, à la place de l'attaché de l'aide de camp habituel, il n'aurait sûrement pas dit « Père, baissez-vous ». Et vous imaginez la suite, et j'ai imaginé la suite, parce que pour finir, je fais un chapitre d'histoire-fiction, où j'imagine que De Gaulle a été tué, l'histoire contrefactuelle, et je décris ce qui est arrivé ensuite, sans avoir, ce qui est bien pour un historien, à mettre des notes en bas de page.
Et puis sans révéler les uchronies et les possibilités que vous ouvrez dans ce chapitre du Petit Clamart, votre livre Jean-Noël Jeannet aux éditions du Seuil,